France Inter.
Salut Frédéric, salut l'équipe de Blockbuster. C'est toujours un plaisir de vous écouter chaque été. J'écoutais l'émission d'aujourd'hui des 4 Fantastiques. Et moi, je peux pas m'empêcher de penser à Rick et Morty et l'épisode où ils se foutent méchamment de la gueule des 4 Fantastiques, où Rick anéantit littéralement toute l'équipe et que je trouve très 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 drôle. Voilà. Et puis du coup, petit message subliminal, pas subliminal, à quand un épisode de pure Rick et Morty, la série qui a digéré toute la pop culture du siècle qui vient de s'écouler. Voilà, merci et puis à très bientôt.
To be or not to be, not to be.
Vous vous rendez compte qu'il y a un producteur qui un jour a dit à la toute jeune Meryl Streep qu'elle n'avait pas de talent et qu'elle n'était pas jolie. À mon avis, ça doit être le même type qui a jeté le script d'Harry Potter à la poubelle quand il l'a reçu. Ou qui a dit à Freddie Mercury, ouais ta voix, j'ai envie de dire bof quoi. Le karma étant ce qu'il est, on sait ce que sont devenus depuis ces rejetés d'un jour, mais que sont devenus ces hommes et ces femmes qui sont passés à côté de ces pépites? Elle a duré combien de temps leur dépression post « Oh, je suis passé à côté de la chance de ma vie !» Comment tu vis ton existence quand tu es celui ou celle dans une boîte qui est passée à côté des Beatles ou qui a dit à Al Pacino qu'il n'avait pas une tête à faire du cinéma? À mon avis, tu peux plus t'exprimer sur quoi que ce soit, ever! Surtout si dans la boîte, ça s'est su! Oui, moi je pense, ta gueule! À mon avis, tu changes de nom, tu changes de métier, tu changes de vie, tu vas faire de la biodynamie dans le perche et le soir, quand la nuit tombe, tu regardes l'horizon sans piper mot. Tes voisins te trouvent étrange et anormalement silencieux. Il y a des rumeurs qui commencent à circuler sur toi. Il y en a certains qui disent que tu as peut-être fui un régime dictatorial, d'autres que tu es recherché par la police. Mais toi, tu ne dis rien, car tu sais. Tu sais qu'en prédisant la non-carrière d'un génie à venir, tu as mis fin à la tienne et nuit à ton avenir.
France Inter. Blockbuster.
Juste ici, ça va.
Frédéric Siglist. Merci beaucoup. Quand ils ont dit mon nom, j'ai eu la sensation d'entendre la moitié du pays dire « Oh non !» Pourquoi elle ? Encore ? Mais peu importe. J'ai bien conscience que cette fois est sûrement la dernière où je me retrouve sur cette scène. Et je veux vraiment remercier l'ensemble de mes collègues et tous mes amis. Je m'aperçois que ma vie défile devant mes yeux. Je vois mes vieux amis et ceux que je connais depuis moins longtemps. C'est un immense honneur. Mais ce qui est le plus important à mes yeux, l'amitié, l'amour et la joie sincère que nous avons partagée à faire des films ensemble. Mes amis, merci à chacun d'entre vous, à ceux au ciel et ceux toujours à mes côtés, pour cette carrière formidable et absolument indescriptible. Merci beaucoup.
Depuis plusieurs années, le mouvement MeToo a profondément changé la manière dont on percevait le métier des comédiennes. Désormais, il n'est plus très rare de voir des actrices telles que Margot Robbie, Charlize Theron ou Scarlett Johansson prendre en charge la production de leurs propres films et s'investir autant dans l'écriture de leurs personnages que dans le choix d'un réalisateur ou d'une réalisatrice. Mais il existe une comédienne qui, depuis la fin des années 70, a tracé un chemin totalement atypique dans le paysage cinématographique américain, Meryl Streep. En 40 ans de carrière, Meryl Streep a récolté presque tout ce qui se faisait en matière de récompense. Cultivant une certaine forme de discrétion, cette artiste mondialement connue demeure pourtant bien mystérieuse. Pour en savoir plus, je suis en compagnie de Ariane Allard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes critique de cinéma et de séries, on peut vous lire dans la revue Positif et vous entendre dans Le Masque et la Plume sur France Inter et vous êtes membre de l'Association des critiques de séries.
Exactement.
Avec nous de retour, Laurent Vallière, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste producteur de L'Empire des séries sur France Info et l'émission de théâtre musical et de comédie musicale 42e rue sur France Musique.
Tout à fait, merci.
Avec nous également Héloïse Van Appelgame. Vous êtes docteur en études cinématographiques et audiovisuelles.
Bonjour.
Bonjour. Et vous êtes membre de l'Institut de recherche sur le cinéma et l'audiovisuel.
Tout à fait.
Tout est bon ?
Oui.
C'est bon. Parfait. Les présentations sont faites. Maintenant, plongeons dans la vie de Meryl Streep.
Pourquoi je suis devenue actrice ? Sûrement parce que mes amis m'ont dit que j'étais très douée. J'étais à l'université quand j'ai joué mon premier rôle au théâtre. Je savais que j'aimais ça, mais je n'avais jamais pensé pouvoir en faire mon métier. Je me disais aussi que c'était une chose un peu folle à faire. Et donc, même lors de mes dernières années à l'université où j'étudiais le théâtre, je me suis inscrite à un concours pour intégrer une école de droit. Je me disais que ce n'était pas un projet très sérieux d'être actrice. Je me suis endormie pendant l'examen de droit. Le soir d'avant, je jouais au théâtre et je me suis rendu compte que j'adorais ça. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire ce qui me passionne, même si ça ne me rapporte pas beaucoup d'argent. Quand j'ai eu mon diplôme de l'école de théâtre, il y avait 16 théâtres de Broadway qui étaient définitivement fermés. On était au début des années 70. C'était une période de rigueur et c'était vraiment pas le meilleur moment pour commencer une carrière avec mon prêt étudiant à rembourser. Tout a fini par s'arranger. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois aussi que c'est une question de chance.
C'était Meryl Streep dans une interview enregistrée le 22 octobre 2009 sur la radio KGSM. Alors, quand on parle de comédienne et de comédienne ultime, assez rapidement, le nom de Meryl Streep arrive. Ariane Allard, comment on explique qu'une actrice en moins de 4 ans est déjà sur le point de recevoir l'Oscar de la meilleure interprète? Comment on explique la fulgurante ascension de Meryl Streep?
Alors, c'est une fulgurante ascension au cinéma, mais elle a quand même fait pas mal de théâtre. Elle en parle un petit peu d'ailleurs dans l'interview qu'on vient d'écouter. Et c'est intéressant parce que je pense que ça a beaucoup nourri ensuite son parcours de cinéma. Pas parce que voilà, le théâtre est une espèce de d'art cousin du cinéma, mais c'est parce qu'elle a pu y développer des rôles déjà très complexes de femmes, hein, et que c'est ça qu'elle a porté ensuite quand elle est arrivée au cinéma. Et même si elle est arrivée à un statut de star assez vite, par le biais de second rôle en plus, parce qu'en fait elle a été remarquée très vite, d'abord par The Deer Hunter, le film de Michael Cimino, Voyage au bout de l'enfer, et ensuite par c'était un second rôle, et ensuite par le film de Woody Allen, Manhattan. Moi, c'est par ces deux films-là que je l'ai rencontrée, j'étais adolescente, enfin rencontrée, que je l'ai vue, et qu'elle m'a vraiment, très honnêtement et très littéralement éblouie. Hein. C'est-à-dire que vraiment, je me suis dit, mais qui est cette femme? En plus, c'était deux rôles très intéressants. Et en fait, je pense que déjà, par le biais de ces deux rôles-là, elle avait distillé quelque chose de plus subtil, de plus complexe, de différent, qui n'existait pas dans les rôles féminins de l'époque, à l'époque, c'est-à-dire 77, 78, 79.
C'était voilà. Quoi, pour qu'on se remette dans le contexte, c'était quoi les rôles féminins de l'époque?
Bah, c'était des rôles qui étaient un peu stéréotypés. C'était les épouses, c'était les fiancées, c'était les sœurs éventuellement, ou c'était les copines. Mais c'était pas... Alors par exemple, on va parler de Voyage au bout de l'enfer, parce que moi c'est un film qui est vraiment un film jalon dans ma cinéphilie. Elle a un rôle très secondaire qu'elle a accepté uniquement... Enfin, les circonstances étaient très dramatiques. Elle était la compagne à l'époque de John Cazale.
John Cazale. Hein,
voilà, cet acteur américain qu'on a découvert dans Le Parrain. Et qui est un acteur très intéressant et malheureusement assez fulgurant puisqu'il est mort jeune à 42 ans. Et elle a accepté ce rôle parce qu'elle savait que ce serait le dernier pour lui parce qu'il était déjà malade, et elle l'a accepté parce que c'était un second rôle. Mais en fait, elle était là pour être proche de lui. Et au départ, c'était rien ce rôle, c'était juste, elle était la fiancée d'un des personnages du trio phare du film, en l'occurrence celui qui est incarné par Christopher Walken. Et c'était un tout petit rôle, la fiancée, quoi, voilà, qui attend son amoureux qui est parti au Vietnam. Et en fait, Cimino a tout de suite vu qu'il avait quelque chose, il avait de l'or dans les mains, et il l'a laissé franchement étoffer, nourrir son rôle, et même si ça reste un rôle second, moi je trouve, enfin je sais pas, pour l'avoir vu et revu, parce que vraiment c'est un film qui m'impressionne toujours autant, je trouve qu'elle est incroyablement présente, existante, et dès le départ... On voit que ça se passe beaucoup au travers l'expressivité de son visage, que ce sont des émotions qui sont à fleur de peau. Et là, en l'occurrence, il y a beaucoup d'émotions dans cette histoire. Mais c'est toujours dans la subtilité, dans la délicatesse. Elle n'est pas dans la surcharge, comme d'autres ont pu faire avant elle.
Héloïse, comment avez-vous découvert le fameux mythe
Meryl Streep?
Alors moi, c'était au travers de Sur la route de Madison, parce que c'est un film qu'aimait beaucoup ma mère. Enfin, qu'elle aime toujours. Voilà.
Elle adore ce
voilà.
film.
C'est, donc, c'était vraiment...
c'est elle qui m'a forcé à
Donc c'était vraiment Sur la route de Madison, Out of Africa, qui est aussi son film préféré.
Pareil.
Voilà. Et c'est vrai que ça fait aussi partie de mes films préférés, en fait, Sur la route de Madison. Et pareil, quand je le vois à chaque fois, je trouve que c'est difficile de contenir ses larmes à la fin. Et je trouve qu'en fait, l'histoire d'amour qui est proposée dans le film est très touchante, très émouvante. Notamment... une des premières scènes où en fait ils se rapprochent, où ils sont tous les deux dans la cuisine à l'opposé. Et en fait, tout se passe par des jeux de regard entre l'un et l'autre, où ils n'arrivent pas à se parler. Et donc, ça va passer par le silence, par la musique que Clint Eastwood va lancer à la radio, où la chanson qui se joue, c'est « I see your face before me ». Donc, on comprend que c'est l'histoire d'un coup de foudre. Et c'est ensuite un coup de téléphone, enfin la sonnerie du téléphone de la voisine qui va les obliger à se rapprocher dans la pièce, puisqu'en fait, ils n'osent pas se parler à part avec des échanges de regards. Et elle va être obligée de prendre le combiné du téléphone. Lui va être assis à la table et elle va être obligée, enfin obligée, ça va être un peu le prétexte en fait pour commencer à lui caresser le col de sa chemise pendant qu'elle est en train de parler à sa voisine de ce journaliste qu'elle prétend ne pas avoir vu du tout puisqu'il est de passage dans la région.
Et c'est donc ce que la génération portable ne peut pas comprendre l'importance du téléphone filière dans les relations sentimentales de l'époque.
Surtout dans les cuisines américaines.
Dans les cuisines américaines.
Mais je trouve ça du coup très subtil en fait, la façon dont on montre le rapprochement progressif entre les deux, qui passe par les sous-entendus, par les regards et par une sorte de pudeur en fait entre les deux, et qui va elle la sortir de son quotidien morne avec ses enfants, puisque là on est en plein dans ce qu'on pourrait appeler la femme mystifiée qu'a théorisé Betty Friedan, donc cette écrivaine des années 60 qui a essayé de comprendre pourquoi plein de femmes américaines de classe moyenne étaient malheureuses dans leur ménage, dans la vie domestique, puisque c'est ce qu'on leur avait promis comme un petit peu gage de bonheur. Et elle n'est pas forcément malheureuse, en tout cas elle ne le sait pas forcément, mais elle découvre autre chose que la vie de mère ou d'épouse lorsque son mari et ses enfants partent pour le week-end. Et elle découvre pour la première fois en fait ses désirs de femme. Et ça, je trouve ça très beau en fait, la façon dont c'est amené. Et comment aussi ses enfants devenus adultes le découvrent, puisque eux ils l'ont vu uniquement sous le prisme de
c'était une mère, donc elle n'avait voilà. pas forcément de désir.
Exactement. Et en fait, en découvrant son journal intime à sa mort petit à petit, il découvre que voilà, elle avait ses propres rêves, ses pensées, ses désirs de femme, ses peurs aussi, et que elle a mis de côté un petit peu tout ça pour sa famille. Mais que voilà, le temps de quelques jours, elle s'est autorisée en fait à être émancipée, à s'émanciper de ce rôle-là pour écouter ses désirs de femme.
Laurent Vallière, comment s'est passée votre rencontre avec Meryl Streep?
Bah, en fait. jamais physiquement, même si je l'ai vue il y a pas longtemps. Elle était
je ne demandais pas tant d'informations.
Vous savez,
Laurent,
qu'elle était à l'auditorium de Radio
oui,
France.
Tout à fait.
Et j'étais placé à 5 mètres d'elle. Elle était récitante. Mais à part ça, en fait, c'est drôle parce que moi, alors évidemment, sur la route de Madison, c'était des mélos qui m'intéressent, enfin qui évoquaient pas trop.
Vous êtes pas un grand sentimental.
Mais Kramer contre Kramer, par contre. Ça, c'est un film absolument bouleversant. Et ce qui est intéressant pour aller dans le sens de ce que vous disiez, c'est qu'en fait, lorsqu'elle a pris le rôle de l'épouse, en fait, elle explique que le rôle n'avait pas du tout. Le rôle féminin, justement, était.
C'était un second rôle, déjà.
Voilà, était très faible. Et qu'elle a demandé spécifiquement au réalisateur de pouvoir l'étoffer. Et c'est pour ce personnage qu'elle va avoir son premier Oscar. Et en fait, moi, ça m'avait toujours surpris. Effectivement, c'est pas la première. C'est pas la femme la plus glamour. Elle a démarré sa carrière finalement au cinéma à un âge, on va dire, plutôt tardif. En 1979, lorsqu'elle est dans Kramer contre Kramer, elle a 30 ans. Mais par contre, comme elle vient du théâtre, elle a développé toute cette intériorité, toute cette épaisseur dans les personnages qu'elle incarne à l'écran. Et c'est vrai que dans Kramer contre Kramer, moi, elle me mettait les larmes aux yeux, oui.
J'aimerais savoir dans quel milieu elle a grandi, parce qu'on la sent, contrairement à de nombreuses autres comédiennes qui ont découvert Hollywood des fois de manière un peu violente, déjà très armée intellectuellement avant même de rencontrer des metteurs en scène.
Alors en fait,
Ariane.
Pardon. En fait, comme vous me regardiez,
mais oui.
En fait, elle a grandi. C'est presque l'archétype en fait de la girl next door au départ, parce que elle a grandi dans un foyer de classe moyenne, dans le New Jersey. Voilà, donc elle est née en 49, donc vous voyez, vraiment, elle a grandi, c'est les années 50, c'était vraiment le moment où, effectivement, c'était l'utopie du rêve américain, et je pense qu'elle l'a complètement rempli, en tout cas dans ses années premières, puisque c'était la première de la classe, puisqu'elle a été cheerleader, donc pom-pom girl, au lycée, ensuite, à la fin du lycée, elle a été élue reine du lycée, donc elle a rempli vraiment toutes les cases, elle a coché toutes les cases, et elle est effectivement le prototype de la première de la classe. Après, elle a grandi, bon, avec un père, je crois qu'il était pharmacien, je ne sais pas si je me trompe, je crois, et une maman qui ne travaillait pas, mais qui était quand même artiste et qui a beaucoup poussé sa fille.
Et elle venait d'un, et pour exprimer le fait qu'elle venait d'un milieu modeste, en fait, la moyen, grande école, moyen, mais la grande école d'art dramatique et de chant à New York, c'est la Juilliard School, oui. Et elle explique en fait qu'elle n'avait pas les moyens de se payer cette grande école. Cher, hein, c'est là d'où sortent de grands sopranos et de grands musiciens et de grands acteurs, et que du coup, elle a fait l'école Vassar. Mais et effectivement, elle vient d'un milieu modeste, oui.
Alors nous sommes ensemble pour retracer la carrière de Meryl Streep, une carrière qui s'est liée un peu plus tard au destin du groupe ABBA, avec l'adaptation cinématographique de la comédie musicale Mamma Mia. On écoute un de mes titres préférés du groupe suédois ABBA, parce que contrairement à Laurent Vallière, moi je suis un grand sentimental. The Winner Takes It All.
About things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all. The loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belong there. I figured it made sense, building me a fence.
Blockbuster, Frédéric Sigrist.
Your problem.
Votre problème.
Some of you.
À certains d'entre vous,
c'est
que vous n'avez pas le courage de défendre cette loi.
You haven't had to fight.
Vous ne vous êtes jamais battu pour quoi que ce soit dans votre vie. Tout vous est tombé du ciel et vous en ressentez de la culpabilité. Laissez-moi vous dire, et je parle au nom de ceux qui ont fait des efforts pour s'élever socialement et qui, eux, ne ressentent aucune culpabilité. Nous en avons assez de ces tirs au flanc qui profitent encore et encore et ne donnent jamais rien en retour à la collectivité. Et je vois la même chose. La même lâcheté dans notre combat au sein de la communauté européenne. De la lâcheté pour la souveraineté de la Grande-Bretagne et pour l'intégrité de notre monnaie. Car parmi vous, plus d'un sont prêts à faire des concessions. J'entends dire que parmi vous, certains sont d'accord avec ce que les Français ont proposé. Si vous alliez prendre un bateau pour Calais, si vous alliez vous coiffer d'un béret et payer 85% de vos revenus au gouvernement français.
Vous venez d'entendre un extrait de La Dame de Fer réalisé par Phyllida Lloyd en 2011. Meryl Streep est doublée par Frédéric Tirmont, qui est sa voix française depuis 1992. Laurent Vallière, Meryl Streep a très vite eu une réputation, on va dire, de femme de caractère, pour ne pas dire une emmerdeuse dans le métier. Alors évidemment, aujourd'hui, on a un peu avancé sur le sujet, on se rend compte qu'emmerdeuse, c'est souvent juste quelqu'un qui sait ce qu'il ne veut pas faire. D'après vous, d'où cela vient-il ?
Exigence, je pense. Ça me fait penser tout de suite que, vous savez, par exemple, elle voulait pas faire la suite de Mamma Mia. Elle dit qu'elle veut jamais faire de suite. En fait, il faut qu'il y ait un intérêt. Il faut qu'elle ait un intérêt à jouer un personnage, à entrer dans ce personnage. Là, ce qui m'amusait, c'est que, par exemple, pour entrer dans le personnage de Margaret Thatcher, elle explique que pour entrer dans un personnage, elle passe par la voix. Et moi, ça m'a super intrigué en réécoutant cet extrait. Mmh. On entend effectivement la façon dont elle rentre dans le personnage de Margaret Thatcher, la voix très élevée.
Héloïse ?
Oui, je trouve ça très intéressant ce que tu disais, Laurent, sur le travail de la voix. Parce que dans La Dame de Fer, elle incarne un personnage fort, de femme un petit peu dure, comme ça, avec une main de fer, bah, comme le titre l'indique, mais avec autorité, avec une voix qui porte. Alors que dans Le Diable s'habille en Prada, c'est aussi une femme d'autorité, mais sauf qu'elle fait tout un travail sur une voix qui est très ténue, en fait, avec un volume sonore qui est assez bas. Parce qu'elle veut montrer aussi que l'autorité, ça peut s'incarner presque dans un souffle ou dans un murmure. Voilà, oui. Et en fait, son autorité, elle tient presque juste à sa présence, en fait, quand elle rentre dans la pièce et qu'elle donne des ordres à toute son armada d'assistants. Elle n'a même pas besoin de leur crier dessus ou d'élever la voix. Elle le fait vraiment avec un minimum sonore. Et je trouve ça intéressant que dans La Dame de Fer, elle prend le contre-pied et elle montre une autre forme d'autorité, une autre forme de pouvoir, enfin de femme de pouvoir. Mais je trouve que ça se complète bien, en fait, ces deux figures de femmes un petit peu puissantes, antipathiques, mais en même temps qui sont complexes, parce que c'est pas des antagonistes au sens traditionnel du terme auquel on est habitué au cinéma. C'est pas juste, voilà, des personnages de méchants, c'est des antagonistes qui ont de la profondeur, qui ont de la complexité, qui sont pas unidimensionnels.
Ariane Allard, j'ai lu pour préparer cette émission que lors d'une de ses premières auditions avec Dino De Laurentiis, elle a carrément planté le producteur en disant « Bah oui, je suis désolée de pas être... »
Il a dit « Que bruta », ce qui veut dire « Qu'est-ce qu'elle est moche », en gros.
Elle a compris.
En italien, ouais. et elle n'a pas demandé italien. La traduction, mais comme elle parle italien, voilà. Elle a compris.
Et en fait, c'était pour King Kong, et c'est Jessica Lange, qui est une grande actrice également, hein, mais qui a un physique, je vais dire, un peu plus aux normes hollywoodiennes. C'est une jolie blonde, bronzée, et ce que n'est pas Meryl Streep. Et du coup, elle avait une vingtaine d'années quand même, hein, et elle était rien, enfin, elle avait encore rien fait au cinéma. Elle lui a dit, bah, écoutez, si vous n'êtes pas capable de comprendre qui je suis et ce que je veux, bah, je me débrouille sans vous. En gros, je ne me rappelle pas de la phrase exacte, donc je ne veux pas. Mais c'est ça que ça voulait dire. Et Dino De Laurentiis, c'était un immense producteur, on en pense qu'on en veut, mais il était très connu, il était très puissant. Donc c'est quand même. Voilà. Mais voilà, bah, on parlait de son exigence, là, on tombe pile poil dessus, hein, quand même.
Et tout à l'heure, vous avez évoqué John Cazale, qui était lui-même, qui avait pour réputation d'être très perfectionniste.
Oui.
Et d'ailleurs, elle dira que. Au bout de l'enfer avait été très fatigant parce que lui, il la faisait répéter jusqu'à plus soif. Et est-ce que justement, tout ce qui a découlé... Alors, attention, je ne suis pas du tout en train de dire que son perfectionnisme vient de John Cazale.
Oui, je vous voyais bien.
Voilà, là, parce que, mais est-ce que c'est pas cette sorte de relation de deux caractères forts, très 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 pointus, sur, qui a créé, en fait, au fur et à mesure, la Meryl Streep qu'on connaît aujourd'hui?
Alors, il faut quand même se rendre compte qu'ils sont restés peu de temps ensemble, malheureusement, hein, puisque elle l'a
rencontré. Oui, mais justement, est-ce que c'est pas...
Et alors, en revanche, ce deuil, elle l'a porté en elle, voilà. Toute sa vie. Ça, elle l'a dit très peu, mais elle s'est exprimée là-dessus. Moi, je pense pas. Je pense qu'ils se sont rencontrés au théâtre. C'est comme ça qu'ils se sont tombés amoureux. Ça a été assez fulgurant. Et quelques mois après leur rencontre, il est tombé malade, gravement malade, puisque c'était un cancer du poumon. Je pense qu'effectivement, il y a eu des échanges intellectuels et artistiques entre eux. Mais je pense qu'elle, elle était déjà ce qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a perfectionné toute sa vie son art. Mais ce que disait Laurent est très juste. Quand elle était à la fac, dès les premières années d'études, avant qu'elle rencontre John Cazale, on lui donnait les premiers rôles. Mmh. C'est-à-dire que d'emblée, elle a quand même abasourdi les gens qui étaient en face d'elle, quoi. Donc, ça a été une rencontre, je dirais, artistique pour elle, John Cazale. Après, sur le plan privé, je pense que ça a été plus que ça. Parce que quand on a 25, 26 ou 27 ans, qu'on rencontre l'homme de sa vie et qu'on le perd juste après l'avoir rencontré, je pense que c'est quelque chose qu'on porte toute sa vie. Mais elle s'est peu exprimée dessus. En revanche, elle a dû certainement nourrir nombre de ces personnages qui sont aussi souvent des personnages qui ont des fêlures en eux très importants.
Héloïse, Quand on regarde l'intégralité de la carrière de Meryl Streep, on a vraiment l'impression d'avoir finalement, c'est ce que je disais dans l'édito, un parcours MeToo largement avant MeToo. C'est-à-dire quelqu'un qui dit non, ce rôle il est mal écrit, on va le réécrire ensemble, ça ne me plaît pas. Dire à ses partenaires, bah non, tu ne me parles pas comme ça, tu vas te calmer. Dire à des réalisateurs, non, c'est pas comme ça qu'il faut me filmer ou ce genre de choses. Mais en même temps, elle a jamais eu les faveurs des mouvements féministes. Voilà, il y a beaucoup, j'ai lu beaucoup de critiques sur elle disant qu'elle incarnait une forme de conservatisme, voilà, mariée avec 4 enfants, etc. Comment on explique cette dichotomie un peu étrange, ce paradoxe un peu étrange?
Oui, c'est vrai que c'est intéressant, c'est un peu complexe, mais c'est en fait une des premières quand même qui a pris la parole sur la question des inégalités salariales, notamment dans le métier de comédienne et de comédien, où elle a remarqué, voilà, dès les années 80, enfin même ça remontait encore avant, mais que le salaire des comédiens, des acteurs avec qui elle jouait, était le double de ce qu'elle avait. Elle avait très peur aussi, à l'aube de ses 40 ans, de plus du tout avoir de rôle, ce qui est vrai en fait quand on regarde les recherches qui sont faites dans le monde de la recherche. En général, en fait, malheureusement, à partir de 40 ans, les rôles décroissent. Et c'est le contraire plutôt pour les acteurs masculins. Eux, ils vont avoir tendance à, en fait, avoir un salaire qui va croître jusqu'à 51 ans, ensuite ils se stabilisent et ils vont avoir de plus en plus de rôles. Et pour les actrices, c'est malheureusement le contraire, où elles vont avoir un temps de parole qui est plutôt majoritaire en fait dans la vingtaine, et à partir de la trentaine, ça décroît, donc ça peut être 20% de temps de parole. Et ensuite, à partir de 40 et surtout après 65 ans, elles ont à peine 3% de temps de parole. Donc c'est assez alarmant quand on se rend compte de ça. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'elle est autant appréciée aujourd'hui, c'est qu'à plus de 70 ans, elle peut faire tenir un film sur ses épaules, elle peut faire financer un film simplement grâce à son nom. Et ensuite, sur l'aspect féministe, je trouve ça intéressant de voir que, par exemple, pour Kramer contre Kramer, il y a un peu une double lecture, parce que la sortie du film, des féministes qui ont dit vraiment, c'est assez misogyne comme portrait de cette femme indigne qui abandonne son enfant. Sauf qu'en fait, justement, elle a réécrit un petit peu son personnage de Joanna pour pas en faire justement juste un antagoniste ou une mauvaise mère, mais au contraire, elle a réécrit en fait toutes ces lignes de dialogue lors du moment du tribunal, pour montrer toute la complexité qu'il y a derrière ce rôle de mère et d'épouse, et que justement, elle a été vue uniquement par ce prisme, par son mari. Et même lui, en fait, il est amené à revoir sa position, puisqu'il il l'assume, en fait. Il dit à un moment donné, même à son fils, je me rends compte qu'en fait, j'ai attendu d'elle qu'elle soit une femme, qu'en fait, elle n'est pas. Et je pensais que si j'étais heureuse, elle serait heureuse. Et en fait, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas réduire et demander à ma femme d'être uniquement mon épouse. Et je trouve que c'est très justement fait dans le film. Et c'est beaucoup plus subtil que ce qu'on pourrait penser. Parce que quand on voit le début du film, c'est vrai qu'on voit toute l'histoire plutôt à travers la perspective du mari, donc c'est plutôt à travers son regard. En plus, à un moment donné, on l'entend dire à son patron, oui, elle a été forcément influencée par son ami qui fait partie du MLF, encore c'est féministe. Donc, c'est vrai qu'au début, c'est un peu inquiétant, on se dit, oula, est-ce qu'il y a un point de vue masculiniste? Mais en fait, c'est pas ça du tout.
C'est un petit peu plus que le début quand même. C'est-à-dire que le film est quand même, accompagne essentiellement le point de vue du mari, et la scène dont tu parles, parce qu'en fait, elle s'éclipse très vite du film. Hein. C'est un film qui est centré sur le mari et sur la relation du père avec l'enfant.
Il faut préciser pour ceux qui n'auraient pas vu qu'elle décide de lui laisser les clés.
C'est-à-dire qu'elle a élevé l'enfant pendant 5 ans et demi, c'est ce qu'elle dit d'ailleurs à un moment au tribunal, et elle lui laisse pendant quelques mois parce qu'elle se rend compte qu'elle perd pied, elle fait une dépression, hein, en fait, tout simplement. Et elle a besoin de comprendre qui elle est. Hein, et en dehors de sa maternité, et elle va revenir, et il y a un morceau de bravoure effectivement au tribunal, mais c'est le moment où elle reprend la parole, où elle explique un point de vue qui est divergent à mon avis du metteur en scène, hein. Donc c'est ça qui est intéressant, et je pense que c'est pour ça, c'est comme ce film est assez ambigu, en tout cas paradoxal, je pense que les féministes de l'époque l'ont peut-être absorbée d'une façon un petit peu trop frontale et n'ont pas vu qu'effectivement, elle s'était battue. En plus, elle a eu des relations assez compliquées avec Dustin Hoffman pendant le tournage.
Parce que c'était deux méthodes de travail très différentes.
Et en plus, il sortait avec lui,
et puis il sortait d'un divorce juste avant le tournage. Donc, il a projeté tout dans le film.
Mais en tout cas, je pense que maintenant, par rapport à la réception qui est faite des féministes aujourd'hui sur sa carrière, quand on voit l'ensemble, c'est assez riche quand même, parce qu'elle peut incarner n'importe quelle femme, et c'est aussi pour ça qu'elle plaît autant, je pense, à au public féminin. Ouais. C'est-à-dire qu'elle peut être première ministre, présidente, femme de classe moyenne, une veuve, mère célibataire.
Caissière dans un supermarché.
Oui, voilà. Oui. Elle peut habiter en fait toutes les classes sociales, toutes les des femmes différentes, en fait. Voilà,
mais des femmes
âges.
Différentes, mais je mettrais juste un nota bene, des femmes qui ne sont pas forcément initialement celles qui ont le bon rôle. C'est-à-dire que c'est personnages qui, à chaque fois qui peuvent commencer en étant antipathiques pour les spectateurs, quel que soit leur genre. Et en fait, comme un bon avocat, au fur et à mesure
elle
de son jeu, elle les défend et on comprend pourquoi ces personnages sont subtils, ambigus, nuancés. Et on se dit, ah ouais, en fait, c'est pas une méchante. C'est juste que, il fallait que je marche un petit peu dans ses chaussons. Et c'est ça qu'elle arrive à faire pour me faire comprendre pourquoi elle agit. Elle agit ainsi parce que je trouve que c'est vraiment ce qui la caractérise le plus, outre ses changements de voix absolument phénoménaux.
Et ses accents.
Parce qu'on, elle a eu donc une formation théâtrale, mais aussi une formation lyrique, si je ne m'abuse, Laurent Vallière.
Mais en fait, sa maman, au départ, trouvait qu'elle avait une très belle voix, et donc elle l'avait emmenée carrément chez une des meilleures profs de chant lyrique de New York, qui s'appelle Estelle Liebling, et elle raconte simplement que donc c'était quelque chose qui lui plaisait, mais elle a arrêté au bout de quelques années, parce qu'elle comprenait pas ce qu'elle chantait, c'était l'italien, et justement, elle avait besoin de défendre des personnages. Et donc elle a mis tout ça de côté, mais elle a conservé cette faculté de chanter, qu'elle va quand même réutiliser au fur à mesure. D'abord à Broadway, d'ailleurs, une de ses révélations, elle allait voir aussi bien des pièces de théâtre que des comédies musicales. C'est une comédie musicale qui s'appelle The Music Man, où il y avait une cantatrice, une chanteuse qui s'appelle Barbara Cook, et qui avait trois airs absolument fabuleux, très lyriques. Et ça aussi, ça a été une révélation pour elle, qu'elle a joué ce personnage principal féminin, quand elle était à la fac. Et un de ses premiers rôles à New York. Un jour, elle va se dire, OK, je passe du New Jersey, je vais essayer de tenter ma carrière à New York. Elle va avoir la chance d'être embauchée au Public Theater. Public Theater, c'est un théâtre privé qui n'est pas du tout à Broadway, qui est dans le East Village, comme on dit. À l'époque, c'était vraiment le lieu des hippies. C'est au Public Theater qui est née notamment la comédie musicale Hair, dans les années 1960. Et trois plus tard, elle a la chance de participer à une comédie musicale autour d'Alice au Pays des Merveilles, où elle chante. Et quelques mois plus tard, elle va remplacer l'actrice principale à Broadway, il n'y a jamais eu d'enregistrement, c'est tellement dommage, dans une comédie musicale de Kurt Weill, où elle chante Sora Baya Johnny. Donc, ses débuts à Broadway, enfin, dans le théâtre, mélangent effectivement le chant et le théâtre.
About things we've gone through, though it's hurting me. You're just nice. I'm not good, I'm not nice, I'm just right. I'm the witch, you're the world.
Money, money, money must be funny in a rich man's world.
Meryl Streep a tous les talents. Mmh. Elle chante, elle danse. Pouf, oh là là, que d'émotions. Non, j'aime beaucoup Meryl Streep depuis très longtemps. Et alors, il y a un autre film que j'aimerais évoquer avec vous, c'est Le Choix de Sophie, sorti en 1982 d'Alan J. Pakula. Moi, je sais que quand j'ai vu ce film, ça a été une énorme claque, parce qu'une fois de plus, c'est un rôle de femme qui est vraiment là, confronté à un sujet sur lequel tout le monde a quelque chose à dire. Parce que le choix de Sophie, désormais, on sait un petit peu ce que ça signifie. Qu'est-ce que vous avez ressenti en voyant ce film la première fois, Ariane ?
Juste sur l'expression, je voulais juste dire qu'aujourd'hui c'est devenu une expression figée, c'est-à-dire que quand on dit le choix de Sophie, on sait que c'est un dilemme en fait qui est absolument insupportable et qu'on peut pas le voilà. Même ceux qui n'ont pas vu le film doivent comprendre que c'est insupportable. Voilà.
Oui, on peut le dire. Hein, lequel de tes enfants tu choisis
Elle
pour
est
survivre.
Déportée en fait.
Oui,
voilà.
Oui. Quel enfant survivra ou non.
Alors. Moi, je l'ai vu à l'époque, je suis peut-être la plus vieille de ce plateau. J'étais, cela dit, très jeune, et ça m'a vraiment choquée, parce que je pense que c'était la première fois que je voyais un film qui abordait la question, parce que malgré tout, c'est comme, il y a plusieurs thèmes, c'est très riche, hein, qui abordait la question de la Shoah par le biais d'un personnage féminin. Il y avait eu une série, d'ailleurs, dans laquelle elle jouait, qui s'appelait Holocaust, mais... que moi j'ai vu, j'avais, je sais pas, 14 ans, et qui m'avait complètement bouleversée. Mmh. Je pense qu'en le revoyant aujourd'hui, il y a quand même des ficelles, des choses qu'on pourrait plus filmer, ce qu'on voit aujourd'hui. Dans le film de Pacula, que j'ai revu d'ailleurs pour l'émission, il y a quand même des scènes qui se passent dans le camp, qui sont un peu gênantes, de reconstitution, de maquillage, de vêtements, tout ça. Je pense que c'est pareil, aujourd'hui c'est un peu plus discutable. En revanche, ce qui est très beau et ce qui est très bouleversant, c'est que ça raconte l'histoire d'une femme qui a donc dû faire un choix absolument odieux des années auparavant, et qui se retrouve aujourd'hui, et qui pour oublier son passé, en tout cas tenter de vivre avec, et c'est impossible de vivre avec ce passé, se retrouve dans une relation triangulaire entre deux hommes, et puis je trouve qu'on a l'impression que Pacula ne se lasse pas de la filmer, et il y a beaucoup de gros plans sur elle, et c'est là je trouve qu'on voit son jeu, et à quel point son jeu est une grande finesse, parce qu'elle n'est jamais dans l'outrance, pourtant c'est un mélo, quand même. Enfin, il faut le nommer, hein. C'est rien.
Mais elle arrive à transcender les mélos comme personne.
Mais voilà, et il n'y a, ouais, jamais, ouais, y a jamais de surcharge, me semble-t-il. Tout passe uniquement par son corps, quoi. Donc je trouve ça assez exceptionnel.
On est toujours en compagnie d'Ariane Allard, Laurent Vallière et Héloïse Van Appelgem. Mais pour le moment, on va faire une pause musicale choisie par notre programmateur musical Jean-Baptiste Audibert avec King Hanna, New York, Let's Do Nothing.
You have sit-down interview. I remember telling Phipps about what I knew. He said, so tell me something about you. I said, well, I'm a singer, musician too. He said, oh no, not another one. Rolled his eyes and moved on. He fired me 5 years later. Said to Craig and I, we two are together. Cause I I feel good when I am in New York.
attention, qui que vous soyez, attention.
Blockbuster.
Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Frédéric Sigrist.
Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza?
Sur France Inter.
Lorsqu'on demande à Meryl Streep quel acteur l'a marqué quand elle a débuté ce métier, elle parle de Robert De Niro en disant que, en le voyant jouer dans Taxi Driver, elle s'est dit « Ah, c'est exactement le genre de rôle que je veux avoir ».
Elle a dit même plus, elle a dit « Ok, je vais faire du cinéma ». Parce qu'au départ, elle voulait faire que du théâtre. Et simplement, en le voyant, sa performance à l'écran, elle s'est dit, finalement, ce que je fais au théâtre, ma recherche de personnages au théâtre, je peux la développer aussi au cinéma. Et c'est comme ça qu'elle va bifurquer dans le cinéma, tout à fait.
Et cette dimension de construction de rôle qui s'est justement opposée, on était en train d'en parler hors antenne, à la méthode de Dustin Hoffman, vous savez, où il faut se plonger, complètement s'investir dans le rôle, alors qu'elle, elle travaille complètement autrement. Est-ce que finalement, elle ne magnifie pas tout simplement le terme premier qui est le jeu? Est-ce que ce qui montre l'élasticité du jeu de Meryl Streep, c'est justement que, comme les enfants, elle continue de jouer? Parce que un peu plus tard, quand elle va se lancer dans la comédie, on arrive à percevoir le sentiment un peu euphorique de jouer la méchante, de jouer à se déformer dans L'amour vous va si bien de Zemeckis, dans Le diable s'habille en Prada. Elle sait très bien que quand elle se pose et qu'elle regarde juste Anna Taoué comme ça, avec ce côté Cruella d'enfer, il y a quelque chose qui se passe. Et même quand on la voit recevoir ses prix, on a toujours une dimension de joie et d'euphorie, mais presque comme celle d'un enfant. Est-ce que c'est pas ça qui fait la distinction entre la méthode des acteurs hollywoodiens ou non? Qu'en pensez-vous?
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'elle elle joue. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'elle ne veut jouer que deux fois par an. Je ne sais pas si vous avez vu dans les interviews, elle dit « Moi, j'ai quand même une vie de famille, je veux m'occuper... » Enfin, c'était il y a 10 ans, je ne sais pas si aujourd'hui ses enfants ont grandi. Mais voilà, je veux m'investir dans deux films par an, pas plus. Mais effectivement, elle peut incarner la sorcière dans, aussi dans Into the Woods. Où elle dit aussi, par exemple, j'ai eu la chance de l'interviewer... à l'époque de la sortie de The Prom sur Netflix, hein, et je lui avais dit, mais pourquoi vous faites autant de comédies musicales finalement? Elle avait dit, ah, j'aime bien chanter, j'aime bien jouer, mais j'adore danser. Parce que c'est les moments d'euphorie où on peut vraiment faire soulever les spectateurs. Donc je pense qu'elle est tout à fait là-dedans, dans apporter une authenticité et un peu de plaisir aux spectateurs. Alors, c'est un peu bateau de dire ça parce que tout le monde va vouloir le faire, mais je trouve qu'en elle, il y a une gravité, vraiment, finalement. Elle prend les spectateurs au sérieux. Moi, je pense tout simplement, vous savez, elle a fait la suite de Big Little Lies, la saison 2, qui était effroyable. Mais sauf elle, hein. En fait, on a l'impression que, vous savez, c'est cette série où il y a Nicole Kidman, Reese Witherspoon, une triplette de stars pouponnées, ça se passe dans une villa luxueuse sur la côte ouest. Et en fait, elle joue la méchante mère Mackerel. Et en fait, elle est géniale dans la série. Hein. Et toute la série ne tient que... Pardon ?
Elle fait une belle-mère.
Elle fait une belle-mère.
Une belle-mère inquiétante. Hein,
et toute la série ne tient que sur elle. Et elle capte la lumière, comme tout à l'heure vous disiez. Mm. Elle sait capter la lumière dès qu'elle apparaît sur scène ou à l'écran.
Héloïse ?
Oui, je trouve ça intéressant. C'est vrai de voir comment aussi son jeu se renouvelle en fonction de ses rôles. Quand on voit Le diable s'habille en Prada, tout à l'heure, on parlait du volume vocal qui était tenu. Mais même dans ses expressions faciales, elle est très minimaliste, où en fait, il faut juste capter, c'est ça, un regard de haut en bas quand elle regarde donc son assistante Andy, qu'elle considère être mal habillée. Ouais. Voilà, elle joue beaucoup avec ses lunettes pendant tout le film. Ou alors, il y a toute une scène qui repose justement sur le fait qu'elle n'aime pas du tout un défilé. Et là, pourquoi est-ce qu'on comprend qu'elle n'aime pas se défiler? C'est juste parce qu'elle se pince les lèvres, mais d'une façon vraiment extrêmement minimaliste. Et donc, je trouve ça très intéressant de voir comment, comme tu disais aussi, Laurent, il y a une sorte de gravité en elle avec laquelle elle incarne ses personnages. Mais derrière cette gravité, on a l'impression que parfois, tout peut basculer ou tout peut s'effondrer. Parce que par exemple, dans Le diable s'habille en Prada, il y a une scène en particulier où elle se montre sans maquillage. Et d'ailleurs, c'est Meryl Streep qui a demandé elle-même à la jouer sans maquillage, où elle apprend à son assistante que son mari veut divorcer. Et donc, on la voit sans artifice, sans tous ses habits luxueux, sans toute son armée d'assistants. Et on a l'impression, pour la première fois, de découvrir un nouveau visage et de la voir sous ses fêlures. Et que derrière cette posture, derrière cette envergure, comme ça, d'une femme de pouvoir, il y a un socle fragile et en fait, tout peut s'effondrer. Il y a le vernis qui s'écaille. Et c'est aussi un peu la même chose dans La Dame de Fer, où on la voit s'époumoner, comme on a entendu tout à l'heure avec l'extrait. Et en même temps, on la voit à un moment donné vieillissante, un petit peu fragilisée.
Mais elle est saisie à un moment où elle est âgée et fatiguée et malade, en fait.
Oui. Et je trouve ça intéressant de voir comment est-ce qu'elle jongle, en fait, avec à chaque fois ces différents personnages dans le personnage. C'est-à-dire qu'on l'a dit tout à l'heure, là, c'est un petit peu les poupées russes avec l'ensemble des films qu'elle a joués. On a l'impression d'avoir un éventail extrêmement riche. Et en même temps, dans ces personnages eux-mêmes, elle arrive parfois à jongler avec différentes personas, mais même dans le choix de Sophie. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans le film, parce que je l'avais vu plutôt l'an dernier, donc c'est assez récent, mais il y a le moment au présent où on la voit, comme tu l'as dit, Ariane, où elle capte la lumière. Et elle est montrée comme un peu fragile, assez sublime, blonde. Et puis les moments en flashback au temps passé, où là, on a l'impression que la colorimétrie est plutôt sépia, et où elle est dans les camps. Et donc elle jongle en fait aussi entre ces deux identités. Et on a l'impression qu'en fait Meryl Streep est à la fois multiple par ses rôles, mais même dans les rôles eux-mêmes, qu'il y a plein d'autres personnages en un.
Oui, pardon.
On approche malheureusement de la dernière partie de cette émission consacrée à la merveilleuse Meryl Streep. Mais pour le moment, on va écouter Christine and the Queens avec Rentrer chez moi.
Ted, I'm leaving you. Ted. Keys. Here are my keys. Here's my American Express card. Here's my Bloomingdale's credit card. Here's my checkbook. And I don't love you anymore.
C'est pas une raison pour tout foutre en l'air. C'est pas une raison, mais j'étais en colère. Je ne sais plus comment demander qu'on m'aime. Je suis impatient, tu me manques tant.
Inter. Blockbuster, Frédéric Sigrist.
Miranda, about last night.
Miranda, pour hier soir,
I need the new Harry Potter book for the twins.
J'ai vu le nouvel Harry Potter pour les jumelles.
Okay, I'll go down to Barnes & Noble right now.
D'accord, je vais chez Barnes & Noble tout de suite.
Did you fall down and smack your little head on the pavement?
Vous êtes tombé sur la tête ou bien vous avez reçu un choc récemment?
Not that I can recall.
Pas à ma connaissance.
We have all the published Harry Potter books. Twins want to.
Nous avons déjà tous les Harry Potter publiés. Les filles veulent savoir ce qui arrive ensuite.
You want the unpublished manuscript?
Vous voulez un manuscrit qui n'est pas encore publié?
Well, we know everyone in publishing. It shouldn't be a problem.
Dans l'édition, nous connaissons pas mal de monde. Ça ne devrait pas poser de problème.
And you can do anything, right?
Et vous savez tout faire, n'est-ce pas?
She doesn't get it. No, elle se rend pas compte. And J.K. Rowling. I'm not gonna get a copy of that book. Il faut absolument que j'appelle J.K. Rowling en personne, sinon je trouverai pas de copie de son bouquin.
My girls are leaving on the train.
Mes filles partent chez leur grand-mère par le train de 16h. Le livre doit être impérativement ici au plus tard à 15h.
Of course, bien sûr.
And I would like my steak.
Et je prendrai un steak ici dans une quinzaine de minutes.
No problem. Pas de problème.
Vous venez d'entendre un extrait du Diable s'habille en Prada, un film de David Frankel réalisé en 2006. Anna Taoué est doublée en français par Caroline Victoria. Alors, on a fait un petit saut dans le temps et on est passé assez rapidement sur quand même deux monuments d'une génération voilà, Out of Africa et Sur la route de Madison. Parce que moi, après, je vais avoir des comptes à rendre à ma mère. et ce que je trouve assez phénoménal, c'est que ces films qui ont été vraiment des marqueurs générationnels ont ensuite été rejoints par Mamma Mia et Le Diable s'habille en Prada, qui a parlé à une toute autre génération. Il y a quand même un art assez peu répandu chez les comédiens et les comédiennes de marquer autant de générations avec des hits qui peuvent rassembler. Meryl Streep, elle fait un grand écart sur plusieurs générations. Ariane.
Mais ce qui est intéressant d'ailleurs, quand vous dites ça, c'est à ça que ça me fait penser, c'est qu'en fait j'ai l'impression que Meryl Streep, c'est d'abord une actrice qui s'inscrit dans une tradition, c'est-à-dire une actrice qui se met au service de ses personnages, et c'est pour ça qu'elle a fait tellement de rôles transformistes, on a l'impression qu'elle veut s'effacer tout le temps, et elle prend un accent, et elle change de coiffure, elle change de couleur de cheveux, et ses personnages sont très différents. Et en même temps, on la reconnaît toujours un tout petit peu. Pas qu'elle veuille absolument qu'on la reconnaisse, mais il y a un sentiment un petit peu, je ne sais pas si c'est de prouesse ou de jeu ou de plaisir, comme le disait Laurent tout à l'heure, qui fait qu'on la reconnaît. Et c'est pour ça que je pense que toutes les générations peuvent se retrouver dans ce personnage, c'est qu'elle est à la fois totalement caméléon et c'est toujours elle. Et on la reconnaît à chaque fois, donc il y a une espèce de constance dans la diversité qui fait qu'à mon avis, on peut avoir 20 ans aujourd'hui, 20 ans hier ou 20 ans avant-hier, on retrouve toujours quelque chose qui nous est familier et qui en même temps nous apporte une pluralité et une complexité.
Il y a quelque chose qui, voilà, c'est vrai, qui ressemble un petit peu à Arsène Lupin.
D'ailleurs, physiquement, elle ne vieillit pas. Oui, enfin, quand on la voit, elle a 70 ans aujourd'hui, franchement, j'adorerais être comme elle à l'âge qu'elle a plus tard. Et j'ai pas l'impression qu'elle ait beaucoup fait de retouches ou de travail, en tout cas, ça a été très délicat. Et franchement, elle ne change pas physiquement, quoi. Elle est assez inaltérable, quelque chose de presque un petit peu... Enfin, elle a fait des rôles de sorcière, mais il y a des fois, on peut se poser la question, quoi.
Héloïse ?
Oui, je suis d'accord. Il y a un peu comme un passage de flambeau, parce que bon, moi, c'est ma mère qui m'a fait connaître Meryl Streep. Voilà, c'est une autre génération. Moi, génération en trentenaire, et j'ai une petite sœur qui a 20 ans, et elle l'a connue plutôt, je pense, pareil, avec Le Diable s'habille en Prada. Et donc, c'est ça, on a l'impression qu'elle peut parler à plein de générations tout court, mais en particulier des générations de femmes. Et elle-même, elle le dit, j'avais vu une interview où elle expliquait, enfin, on lui demandait quel était son apport dans l'histoire du cinéma, et elle disait qu'elle pensait que elle avait réussi à faire le pont entre différentes générations, que par exemple dans l'époque classique, voilà, années 50-60, il y avait plutôt les sex symboles d'Hollywood, ensuite il y a eu le nouvel Hollywood où elle est arrivée avec Voyage au bout de l'enfer, et elle parlait plus aux femmes de sa génération, elle a réussi à faire le pont un petit peu entre ces deux époques-là, et en fait elle a réussi à prolonger ce pont jusqu'à aujourd'hui et à parler, c'est vrai, à plein de générations de femmes.
Laurent Vallière.
Et moi, ce qui m'impressionne, en fait, c'est que le choix, en fait, des films qu'elle fait, ça me fait penser à, je crois que c'est Leonardo DiCaprio qui a dit, moi, ma règle dans ma vie, c'est de jamais faire de films de super-héros. Et ce qui est le cas, effectivement. Et je me dis, à chaque fois qu'elle a choisi un film, effectivement, elle a étudié, elle a toujours fait des bons choix. Par exemple, Mamma Mia sur le papier, on se dit que c'est pas évident, même si elle considère finalement c'est sa mélodie du bonheur à elle et que c'est pour ça qu'elle voulait pas en faire une suite, une deuxième, mais elle avait encore un personnage à défendre qui était le personnage de cette femme monoparentale. Et effectivement, on regarde moi, je suis toujours impressionné. Par exemple, elle peut aussi se moquer d'elle-même quand elle fait Florence Foster Jenkins, mm-hmm, où elle s'amuse à mal chanter, elle qui chante plutôt bien, elle s'amuse à défendre un personnage qui était complètement fou et qui se prenait pour une cantatrice d'opéra. Et donc, j'ai du mal à trouver dans sa filmographie, jusqu'à rien que la série dans laquelle elle a brillé cette saison, la saison dernière, Murder in the Building, où en fait, j'avais l'impression de voir 10%. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'épisode d'Isabelle Huppert dans 10%, où on voit Isabelle Huppert qui est en train de répéter un rôle. Et en fait, dans cette saison 3 de Murder in the Building, elle interprète une actrice de théâtre qui est absolument insupportable, mais on la voit lors des répétitions, et on la voit avec ses partenaires, et on la voit en train justement d'apprendre un accent particulier pour le personnage. Et en fait, ce qui est formidable avec cette série, c'est qu'on rentre presque à l'intérieur de la mécanique de Meryl Streep en tant qu'actrice.
Lisiane Larbani, qui travaille sur cette émission, me dit que Meryl Streep est fan de 10%.
Ah, ok.
Voilà. Donc,
mais en fait, il y a vraiment. Vous savez qu'elle sera dans la quatrième saison de Murder in the Building qui sort à la rentrée. Et évidemment, dans la saison 3 de Murder in the Building, elle chante aussi, Meryl Streep.
Eh bien voilà, la boucle est bouclée. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Merci Ariane Allard, merci Laurent Vallière, merci Héloïse Van Appelgem d'avoir été avec nous pour donner envie aux auditeurs et auditrices de revoir les films de Meryl Streep, parce que vraiment, c'est un poème. Cette émission a été réalisée par Charles de Silia, elle a été préparée par Benjamin Ducy et Lisiane Larbani, avec l'aide d'Emilien Miloche et de Camille Olive. Et à la technique aujourd'hui, on le remercie également, Baptiste Collion. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20, je répète 01 56 40 30 20, ou m'alpaguer directement sur Instagram, je réponds au message. Demain, on se retrouve même heure, pour parler cette fois-ci d'un sujet complètement différent, quoique je suis sûr que Meryl Streep pourrait le jouer aussi, Bob Marley.
Oh boy, thank you. You know, there are some days when
vous savez,
I myself
il y a des jours où je me sens vraiment surcoté.
But not
Mais
today.
Pas aujourd'hui.